Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour le journal.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. En voici les titres. La vente de cobalt est suspendue à Katanga Mining dans le Lualaba, une décision qui fait suite à la présence de l'uranium dans l'hydroxyde de cobalt produit dans le cadre du projet Kamoto à Kolwezi. Des graves dépassements budgétaires lors de l'examen de la loi portant reddition des comptes exercice 2017 hier au Sénat. Le sénateur Mokonda Bonza le déplore. Il craint pour l'avenir de la RDC en ce moment où la CENI attend encore du gouvernement 122 millions de dollars américains. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a clôturé sa visite dans la région de Beni hier. À l'occasion, Jean-Pierre Lacroix fait un constat. L'activisme des groupes armés, notamment l'ADEF dans la région, ne facilite pas le travail de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. La société Katanga Mining Limited a annoncé ce mercredi que sa filiation d'exploitation Kamoto Copper Company va cesser la vente de cobalt sur son projet de Kamoto à Kolwezi dans la province du Lualaba. Dans un communiqué publié le 6 novembre dernier en Suisse et relayé par le magazine Katanga Mining News, cette décision fait suite à la présence d'uranium dans l'hydroxyde de cobalt produit dans le cadre du projet Kamoto. La production totale de cobalt a été suspendue à plus de 1400 tonnes de cobalt fini. Noé Kabena pour les précisions.
Il s'agit d'une suspension temporaire de vente de cobalt au deuxième trimestre de 2018 ainsi que les deux premiers trimestres de 2019, indique le communiqué. Mais la production de cobalt sur le projet Kamoto devrait se poursuivre sans réduction de la quantité produite. À ce jour, la production touchée par la suspension de la vente s'élève à 1472 tonnes de produits finis. Toutefois, le faible niveau de radioactivité détecté dans l'uranium ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité humaine, indique ce communiqué. La société mène des enquêtes supplémentaires pour identifier la source d'uranium afin de pouvoir atténuer l'impact de la suspension de vente. Le communiqué ne relève cependant rien concernant les mesures prises, ni moins encore si des cargaisons de cobalt à l'importation contenant ce minerai à risque sont actuellement sur les routes congolaises. KCC poursuit la construction d'un système d'échange d'ions afin d'éliminer l'uranium du cobalt produit sur le projet d'ici l'an prochain. Son cours est estimé à environ 25 millions de dollars américains. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Direction Kalemie dans la province du Tanganyika, suppression de toutes les barrières et suppression provisoire de certaines taxes par le gouverneur de province qui séjourne à Kongolo. Nous sommes à 360 km au nord-est de Kalemie. Objectif visé, soutenir les initiatives privées que prend la population pour participer à l'essor économique par ces temps difficiles dans la région. La société civile du Tanganyika salue la mesure de l'autorité provinciale. Françoise Avemibé.
C'est dans une note circulaire du 3 novembre que le gouverneur de province Richard Ngoy Kitangala a annoncé cette mesure. Une mesure qui consiste à supprimer sur le plan sécuritaire toutes les barrières que la note appelle des barrières de sécurité sans en donner la motivation. Ensuite, la note annonce, sur le plan financier, la suppression provisoire à la fois de la taxe de péage de la catégorie touchant aux motos, de la taxe vélo et enfin de la taxe d'étalage dans les marchés organisés dans les 6 territoires de la province du Tanganyika. La société civile du Tanganyika se dit satisfaite de la mesure que prend l'autorité provinciale en faveur de la population. Mais toutefois, cette structure citoyenne émet par la voix de son porte-parole des inquiétudes. Modeste Kabazi.
Est-ce que c'est une barrière vraiment de sécurité? Si elle était vraiment de sécurité, est-ce que ça ne va pas encore porter atteinte à la sécurité? Il faut apporter la nuance. Nous sommes en train de suivre par-ci, par-là, les malaïkas, les toiles et tout ça. Quant à la suppression de taxes, certes, ça allège aussi la charge de la population en disant que c'est provisoire. J'ose espérer que l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale sera rapidement saisi de manière à ce que cela se fasse dans les règles connues dans l'administration.
Kalemi, François Diabemi, Radio Okapi.
Le directeur général intérimaire de la Direction générale de recettes de la province de la Tchopo, DGRPT, a été interpellé à la plénière d'hier à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Nous sommes à Kisangani. Aimé Pengeli Kaka était convoqué pour justifier la dilapidation des recettes de la province d'un montant de plus de 600 millions de francs congolais, équivalent de 600 millions de francs congolais. Dans ses justifications, le DG n'a pas convaincu les députés provinciaux. Les explications avec Ali.
L'auteur de cette interpellation, le député provincial Jérémy Okotoyeni, voudrait obtenir du DGAI de la DGRPT toute la lumière sur ces détournements présumés et certaines zones d'ombre qui entourent la gestion financière de la Tchopo. Ce chiffre de 685 140 683 francs congolais a été repris dans un rapport d'édite des experts mandatés par le gouverneur de province en date du 27 juin au 1er juillet 2018. Le député Jérémy Okoto.
Le directeur général ad iterim à complicité présumée de certains de ses collaborateurs en train de dilapider les recettes de la province pour une équivalence de 415 237 $.
Dans sa réplique, l'incriminé n'a pas clairement fait allusion au grief et porté à sa charge. Le DGAI de la régie financière de la Tchopo a plutôt étalé ses performances d'une année à la tête de son secteur. Aimé Pengé.
Votre régie provinciale sous ma gestion a fait des réalisations des recettes à près du double, si pas 170% de ces réalisés par mes prédécesseurs.
Une série d'observations et questions lui ont été bombardées par certains députés provinciaux. Il a sollicité un délai de 72 heures pour la réplique. Donatien Aliane Ali Panagama, Kisangani, Radio Kapi.
Examen hier mercredi au Sénat de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2017, le sénateur Mokonda Bonza déplore des graves dépassements budgétaires alors que la CENI attendait encore du gouvernement 122 millions de dollars américains. Il dit craindre pour l'avenir de la RDC au regard, d'après lui, de la manière dont le pays est gouverné. Mokonda Bonza dénonce notamment l'utilisation de l'argent des trésors publics ainsi que des personnalités assumant des fonctions officielles telles que le Premier ministre, les ministres, les directeurs de cabinet du chef de l'État à battre campagne pour un candidat président de la République. Florentin Mokonda Bonza est au micro de Michel Kifindangoy.
Jamais on n'a vu dans l'histoire un candidat président de la République qui met toutes les institutions sous sa coupe. Parce que je ne peux pas m'imaginer que le président de l'Assemblée nationale accepte de faire partie d'une équipe de campagne juste pour recruter les témoins. Ça, je ne comprends pas. La moindre des choses, c'est quand même de consulter. Si vous ne consultez pas, donc vous vous comportez en dictateur. On tient tout le monde par la barbichette à cause de l'argent. Non seulement qu'il y a des dépassements budgétaires très graves qu'on ne s'explique pas toujours, mais aussi on voit du jour au lendemain, il n'y a pas d'argent pour le processus électoral. Mais en même temps, on voit 150 camions, on voit des aéronefs, mais ils ont été achetés comment ? À partir de quel budget ?
L'activisme des groupes armés, notamment l'ADEF, dans la région, ne facilite pas le travail de la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit à Beni. La déclaration est du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui s'est ainsi exprimé hier à Beni à l'issue de sa visite effectuée avec le directeur général de l'OMS, rassure toutefois que les Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec les FARDC pour apporter une réponse efficace dans la neutralisation de ces groupes armés. On l'écoute au micro de Martial Papimoukeba.
C'est un travail qui est d'abord le travail d'une équipe très unie de l'OMS, de la MONUSCO et des autres agences avec le gouvernement et les autorités du Congo qui sont très mobilisées. Ça commence à produire des résultats, même si il y a, comme l'a indiqué tout à l'heure le directeur général de l'OMS, il y a encore des cas chaque jour, mais la pente suggère que nous pourrons contenir l'épidémie. Le problème, c'est l'environnement sécuritaire qui est dégradé, l'action des groupes armés, en particulier les ADF. Ça aussi, ça appelle une réponse plus forte, concertée, étroitement. On travaille de manière très très coordonnée avec les forces de sécurité congolaises. Mais l'adversaire est un adversaire difficile, qui connaît le terrain, qui se fond dans la population. Les particularités du terrain aussi rendent les opérations très très complexes. Nous travaillons pour améliorer l'efficacité de notre réponse, les moyens, l'entraînement, la connaissance des groupes également. Je pense que nous obtiendrons des résultats.
Au sud Kivu, 3 personnes ont été tuées par balle, 1 militaire blessé, des villages attaqués et un déplacement massif de la population. C'est le bilan de l'insécurité dans plusieurs localités en territoire de Fizi, au sud de la province, depuis le début de cette semaine. Les sources militaires confirment le fait et expliquent que, dans certains villages, ce sont des bandits armés qui font des attaques sporadiques et s'enfuient dans la brousse. D'autres sources concordantes parlent des groupes armés Mai Mai qui s'affrontent. Les détails avec Kadi Adjouba.
Au courant de cette semaine, la situation sécuritaire est restée tendue en territoire de Fizi. Les affrontements qui ont opposé les deux groupes Mai Mai de la communauté Bafuliru et Banyamulenge le lundi dernier dans les villages de Makatete à 150 km de la cité de Baraka a provoqué un déplacement massif de la population et 2 personnes ont été tuées. Le même lundi, dans la localité de Lulimba, des échanges de tirs nourris ont été entendus. Les sources militaires enseignent qu'il s'est agi des affrontements entre des militaires et FARDC et un groupe d'hommes armés non identifiés. Toujours à Lulimba, des hommes en armes ont tué un commerçants dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le centre de santé du village Elombo a été pillé par des hommes en armes. Ce village est situé dans le haut plateau du groupement de Mboko. Le 6 novembre dernier, au village Suima, situé à 62 km de Baraka, un minibus transportant des passagers est tombé dans une embuscade tendue par des individus armés qui ont pillé tout le bien de passagers. Les sources militaires indiquent que des opérations pour traquer ces groupes et bandes armées se poursuivent toujours en territoire de Fizi. Entre temps, la société civile se pose la question sur l'efficacité de ces opérations des militaires. Bukavu, Kadia Dzoba, Radio Okapi.
L'invité. L'invité du jour, c'est Madame Raissa Malou, experte au ministère de l'EPSP et membre de la délégation de la Banque mondiale en mission à Kindu dans la province du Maniema. Elle est à Kindu pour le suivi du projet sur le nouveau programme de la classe terminale du primaire, c'est-à-dire la 7e. Elle présente les côtés positifs du projet tout en relevant ce qui est vraiment important pour les parents d'un côté et pour les élèves de l'autre côté. Madame Raissa Malou s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette mission ici à Kindu?
Alors, nous sommes ici, en fait, pour pouvoir suivre la partie de généralisation des programmes de la 7e année de l'éducation de base, donc le cycle terminal de l'éducation de base, que vous savez être la première secondaire. On veut voir, en fait, comment s'est passée la formation des enseignants, donc réalisée par la province, et on veut se rendre compte des choses à la fois positives et des choses qui sont un peu plus difficiles au niveau de cette mise en œuvre de ces nouveaux programmes, de manière si nécessaire à apporter certaines corrections.
C'est quoi les constats du gouvernement en rapport avec ces projets?
Le constat du projet pour la partie du ministère de l'EPSP. Mais je vois que la formation des enseignants s'est bien déroulée. Je peux constater que la province éducationnelle a correctement fait ça, que les enseignants ont été formés autant dans la ville de Kindu que dans l'ensemble des sous-divisions. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On peut voir que les enseignants nous ont confirmé qu'il y avait un intérêt, que les nouveaux programmes augmentaient l'intérêt des élèves par rapport à la nouvelle approche. Ils nous ont confirmé ici, en tout cas, ils nous ont dit qu'il y avait une amélioration au niveau des acquis, que les points que les enfants faisaient de meilleurs résultats avec les nouveaux programmes comparés à l'année passée ou au début de l'année. Donc nous, pour l'instant, nous sommes contents de voir que ça marche bien. Évidemment, nous avons entendu les difficultés et nous allons voir comment est-ce qu'on peut y remédier.
Rehausser la qualité de l'enseignement de 48% aujourd'hui à 68%.
C'est magnifique, justement. C'est vrai que le Proven nous a raconté ça hier, mais que justement, il y avait cette amélioration qui passait de 48% à 68%. Et donc là, on a trouvé ça très bien. Mais ce que là où on dit, c'est qu'avec les nouveaux programmes que l'on en train de mettre en place, ça va aller justement beaucoup mieux, voire atteindre, se rapprocher des 100%. Surtout que ce qui est vraiment important et que les gens retiennent, mais ici, ce qui est vraiment important avec l'approche que l'on a mis dans les nouveaux programmes, c'est que les apprentissages ont du sens maintenant pour les enfants. Parce que ce qui compte pour vous, c'est pas tant que l'enfant est bourré de connaissances, mais c'est que lorsqu'il sort de l'école, ce qu'il a appris, il peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est l'élément important de la réforme de ces programmes. Et ça, moi, c'est l'aspect qui compte le plus. Moi, je veux m'assurer que les élèves qui sortent de nos établissements savent jouer un rôle positif dans la communauté. Ça, c'est la réussite de la réforme.
Faire pour qu'ils arrivent à ces...
On doit travailler sur les enseignants, donc il y a la formation des enseignants. Donc on va penser à l'aspect formation continue pour que les enseignants soient formés tout le long, justement pour pouvoir corriger et améliorer leurs compétences. Et puis il faut des programmes qui donnent du sens. Donc vraiment, les programmes que l'on a fait, les kits que l'on va distribuer, parce qu'il y a des kits scientifiques qui vont être distribués dans les écoles, cet ensemble d'actions vont permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement.
Le mécanisme de suivi que vous avez mis en place, c'est pour la réussite totale de ces programmes?
Eh bien, nous travaillons en étroite collaboration avec la province éducationnelle. Les experts nationaux sont en contact avec les experts provinciaux. On est en train de mettre en place un système automatisé qui va nous permettre de récolter l'information et d'assurer les corrections qu'il faut. Donc le plus important, c'est vraiment que nous sommes partenaires aussi des bénéficiaires et donc on tient compte des informations qui sont remises pour pouvoir améliorer les choses à notre niveau.
Madame Raissa, merci.
Merci à vous aussi.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.